avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit « Allahu Akbar ». Après ça, ils ont dit que « Où est l'argent ?» Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
On ne veut pas que la guerre recommence. Nous voulons que ce soit la fin et non le début.
Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Sahel+. Aujourd'hui, au sommaire, grogne sociale au Tchad, 11 otages libérés au Cameroun après plus d'un an de captivité, justice populaire plutôt que procédure légale au Bénin, la NASA va améliorer la sécurité alimentaire au Niger. Enfin, notre rubrique santé sera dédiée à la 21e conférence internationale sur le sida à Durban, en Afrique du Sud. Voici tous les sujets que nous allons développer dans Sahel+. Restez avec nous. Au Tchad, le président Idriss Déby Itno devra affronter, sous son nouveau mandat, une grogne sociale au sein des secteurs publics du pays. Les fonctionnaires tchadiens et toutes les couches socio-professionnelles semblent être déterminés à protester. Réélu pour un cinquième mandat consécutif, M. Déby sera investi le 8 août prochain sur fond de tensions sociales. Reportage de notre correspondant à N'Djamena, André Komadjingar.
Nous sommes en plein milieu du mois de juillet, mais le gouvernement n'est pas à mesure de payer le salaire du mois passé à certains fonctionnaires. Les anciens chercheurs, quant à eux, menacent de rompre le protocole d'accord signé avec le gouvernement si les primes, salaires des contractuels et vacations ne sont pas payés dans un bref délai. Les maîtres communautaires totalisent 25 mois d'arriérés de leurs subsides et les élèves de l'école normale bilingue de N'Djamena accusent 6 mois d'arriérés de leur bourse d'études. Pour calmer les esprits, le gouvernement est obligé de payer certains fonctionnaires par découvert bancaire. Analyse de l'inspecteur de trésor Mohamed Nour Ibedou.
Tous ces subterfuges bancaires-là sont destinés à masquer l'état d'un régime qui nous conduit droit vers l'abîme. Cette manière de faire, elle fatigue les banques parce que les banques sont commerçantes. Quand l'échéance négociée est passée, il y a également les intérêts moratoires. Le système est fait de telle manière que l'état en soi risque d'être à la merci des banques parce que la dette intérieure, une fois, avait été payée par les banques moyennant 12% sur le montant à verser aux commerçants, ce qui est totalement anti-comptable. Donc, ce pays risque d'être privatisé à tel point qu'un jour, c'est un individu qui va payer le fonctionnaire par sa poche.
À l'issue de 3 jours d'arrêt de travail sans succès, l'Union des syndicats du Tchad durcit sa position. Elle vient de reconduire son mot d'ordre de grève pour exiger le paiement de salaire du mois de juin aux derniers fonctionnaires. En revanche, les magistrats décident de reprendre le travail après 2 semaines de débrayage pour revendiquer les primes de rendement de 2015. Pendant que la crise sociale sévit, le premier ministre chef du gouvernement a signé un contrat de performance au début de la semaine dernière avec tous les responsables des régies financières. Le chef du gouvernement leur demande de déposer les recettes au trésor public pour permettre à l'État de faire face à cette conjoncture économique alors que cela est une obligation de leur cahier de charges. Réaction de l'inspecteur de trésor Mohamed Nour Ibedou.
Toutes les régies financières sont occupées par soit des parents très proches, soit des beaux-parents. Vous avez le beau-frère qui est TPG. Il pense que cet argent lui appartient et appartient au président et à sa famille. Au trésor, c'est un beau-frère. À la douane, c'est un neveu. Les entreprises sont quasiment la propriété des membres de la famille. Ce sont des intouchables. Donc, ils ne payent pas l'impôt. Le chef de l'État n'a pas d'autre programme que d'appauvrir les autres Tchadiens, enrichir au maximum ses parents, de manière à avoir dans la société une minorité de maîtres et une majorité d'esclaves.
André Kodumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Au Cameroun, 11 otages, dont le maire de la ville de Lagbo, dans le nord du pays, ont retrouvé leur liberté après plus d'un an en captivité. Ils avaient été enlevés par des groupes armés centrafricains. Les 11 anciens otages ont été reçus par les autorités camerounaises. Reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé.
C'est une foule parmi laquelle 2 ministres et les militants du RDPC parti au pouvoir qui applaudit l'arrivée de Mama Abakaï, maire de Lagdo, et 10 autres anciens otages à Yaoundé. Selon Joseph Betty Assomo, le ministre délégué à la présidence du Cameroun chargé de la défense, leur libération a été supervisée par le président Paul Biya.
Tout ceci s'est fait sous la houlette et sous la coordination personnelle du chef de l'État de manière efficace. C'est un dénouement heureux dont nous nous réjouissons tous.
Mais le maire de Lagdo, Mama Abakai, se rappelle des mauvais traitements qui leur ont été infligés pendant 16 mois dans les camps du groupe armé centrafricain.
Vous êtes enchaînés deux à deux, vous avez un litre d'eau à partager à deux toute la journée, vous mangez une fois 14 heures, vous n'avez que le couscous qui n'est que la farine de manioc. On n'a pas eu de variation pendant tout ce temps. Perdre espoir, à un certain moment, nous avons perdu l'espoir. Nous avons perdu l'espoir et la dernière tentative, c'est qu'ils nous ont dit qu'ils nous donnaient une date butoir qui était le 31 juillet 2016. Si le gouvernement ne réagissait pas, ils nous finissaient parce qu'ils avaient déjà assez à nous garder.
Deux otages ont été déclarés morts suite à ces mauvais traitements. Un des otages, Daouda Abdoulaye, explique qu'ils ont été arrêtés par un groupe armé qui réclame la libération de la République centrafricaine.
A été le 8 par un groupe de soldats. Ils sont du front de FDPC, donc Front démocratique du peuple centrafricain, guidé par Aboubacar Sidiki.
Le Cameroun dit n'avoir payé aucune rançon pour leur libération. Mais les anciens otages expliquent que les groupes armés réclamaient de l'argent avant de les libérer. Moki, Edwin Kinzeka, VOA Afrique, Yaoundé.
Au Bénin, la population se livre parfois à des expéditions punitives contre de présumés braqueurs ou voleurs. Ces derniers peuvent mourir brûlés vifs ou battus à mort. Notre correspondante à Cotonou a essayé de comprendre pourquoi certains Béninois préfèrent recourir à la vindicte populaire plutôt d'engager une procédure légale. Reportage de Ginette Fleur à Dandé.
Nul n'a le droit de se faire justice, dit la loi, mais une partie de la population béninoise, apparemment, n'en a que fait de ce principe légal. Comme un serpent de mer, la vindicte populaire est revenue au devant de la scène, et ceci de façon bien plus virulente. Les images choquent la sensibilité, mais personne pour siffler la fin de cette pagaille qui consiste à se faire justice sans donner la possibilité aux accusés de se défendre. Même les associations de défense des droits de l'homme se sont enfermées dans un silence assourdissant. Mais récemment, un communiqué du Conseil des ministres s'est penché sur la question et par un communiqué, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence, a clairement signifié que les sanctions seront excessives pour ceux qui s'amuseront à ôter la vie de leurs concitoyens. Au lendemain de cette déclaration, les populations ont crié leur colère face aux propos d'un gouvernement qui tarde à trouver des stratégies pour contrer la violence des braquages, mais apte à protéger ceux qui, selon elles, sont en porte-à-faux avec la loi. Pour beaucoup, la vindicte populaire est une bonne chose et sera toujours d'actualité tant que des mesures ne seront pas prises pour limiter les braquages.
La vindicte populaire, je pense que c'est une bonne chose. Quand ils veulent braquer, ils n'ont pas pitié. Ils sont prêts à tuer.
D'une part, la population a raison, mais de notre côté aussi, elle n'a pas complètement raison. Puisque, après tout, c'est un être humain comme nous. Donc, on n'a pas le droit de leur arracher la vie comme ça, non.
On le laisse en prison, il fait 2 mois, 3 mois, il ressort et il reprend encore la même chose. Donc, selon moi, qui tue par l'épée, périt par l'épée. Donc, ils ont cherché, donc ils ont trouvé.
L'attitude des voleurs ces temps-ci laisse vraiment à désirer parce que en plus de prendre un bien qui ne leur appartient pas, ils tuent celui à qui le bien appartient. Et donc j'estime que si la population se sent vraiment offusquée au point de se faire justice elle-même, c'est parce qu'elle a bien des raisons de le faire puisque notre justice ne répond pas vraiment à ce qu'on attend.
La vindicte populaire, il faut le dire, a tellement pris de l'ampleur que même les enfants pensent que c'est normal.
Pour moi, les gens qui volent, on doit les brûler.
Pour moi, la seule qui volent là, pour leur couper le bras. S'ils volent encore, on coupe l'autre.
Si on attrape des voleurs, il faut les tuer parce que si on les met en prison, on les donne seulement quelques 5 ans et puis ils sortent après et c'est pour tuer des gens après.
De Cotonou, Ginette Fleur Adonné pour VOA Afrique.
Deux agences américaines, la NASA et l'USAID, ont récemment lancé au Niger un programme visant à promouvoir l'utilisation des données aérospatiales pour améliorer la sécurité alimentaire et la résilience face au changement climatique. Le programme, dénommé « Servir l'Afrique de l'Ouest », a été établi pour durer 20 ans. Les précisions de notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Le programme aidera les gouvernements et d'autres décideurs à bénéficier des images satellitaires, des données et des cartes publiquement disponibles pour mieux prendre des décisions dans quatre domaines que sont la sécurité alimentaire et l'agriculture, l'eau et les catastrophes, la météo et le climat et enfin l'utilisation des sols et la gestion des forêts et zones côtières. Pour le lancement de la phase pilote qui va durer 5 années, l'administrateur principal de la NASA a fait le déplacement de Niamey, Charles Bolden.
Severe West Africa is part of a growing movement around the world.
C'est le directeur régional Afrique de l'Ouest de l'USAID, Alex Deprez, qui a expliqué le constat de base fait par les deux agences pour initier un tel programme.
Si nous pouvons débloquer les secrets de la planète Jupiter, à coup sûr, nous pouvons débloquer les secrets du Sahel. En Afrique de l'Ouest, les deux tiers de la population dépendent de l'agriculture pour leur survie. Des études récentes de modélisation du climat indique que l'Afrique de l'Ouest est extrêmement vulnérable aux effets de changement climatique et à la variabilité des précipitations. Ces projections soulignent la nécessité d'avoir accès à des informations récentes, fiables et à jour pour la prise de décision.
Servir Afrique de l'Ouest est mise en œuvre par le Centre régional d'agro-hydrométéorologie Agrimet, une institution spécialisée du CILS. Il sera dirigé par le Nigérien Alfari Issoufou, chef du département information et recherche du Centre Agrimet de Niamey.
On a eu des expériences et l'impact est très 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 positif. Avant, au cours des inondations, il y a beaucoup de vies, il y a des pertes en vies humaines. Aujourd'hui, 2 jours, 3 jours avant l'inondation, on donne l'alerte et les gens évacuent les régions qui seront inondées. Et là, on sauve assez de vies humaines.
Les autorités du CILS, représentées par le ministre malien de l'Agriculture et celle du Niger par son premier ministre Brigitte Raffini, ont salué la venue de ce programme qui fait de l'Afrique de l'Ouest à travers le Niger le 4e hub du réseau mondial Servir de la NASA et de l'USAID. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Cette semaine, le PEPFAR, le plan d'urgence du président des États-Unis pour lutter contre le sida, se joint à des milliers d'organisations, fondations et autres partenaires pour la 21e conférence internationale sur le sida à Durban, en Afrique du Sud. Nathalie Barge a joint à Kinshasa le docteur Marcel Yotebieng du PEPFAR lorsqu'il était en mission d'évaluation du traitement antirétroviral sur les femmes enceintes et allaitantes, juste avant que le docteur Yotebieng se rende à Durban.
Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de problèmes de déperdition le long des différentes étapes, depuis son enregistrement aux consultations prénatales jusqu'à la fin de l'exposition du risque de transmission. Et nous recherchons à l'heure actuelle des voies et moyens pour diminuer cette perte de vue le long de la cascade. Précédemment, avec des financements de PEPFAR à travers l'Institut national de la santé des États-Unis, nous avons évalué ici l'utilisation des transferts monétaires conditionnels, mais on était encore à 80% de femmes retenues le long de la chaîne des soins, ce qui indiquait qu'il y a d'autres problèmes qui se posent, notamment les problèmes de la qualité des soins dans les structures.
Est-ce que ces soins sont gratuits?
Dans les pays appuyés par PEPFAR, qui est le programme d'urgence du président américain pour la lutte contre le VIH, les soins sont généralement gratuits. Dans les 21 pays en Afrique subsaharienne dits prioritaires par l'ONU-SIDA, puisque ces pays regorgent plus de 80% des femmes enceintes VIH positives, généralement ces pays sont appuyés par PEPFAR et les soins sont gratuits.
Dans l'étude justement de PEPFAR sur ce sujet, il est dit « Nous avons les outils en ce moment pour réduire l'incidence des nouvelles infections, mais nous avons besoin d'appliquer ces outils de manière plus efficace. » Que voulez-vous dire par là ?
Cela veut dire que nous avons des traitements qui permettent de réduire la transmission de la mère à l'enfant à moins de 1%. Mais quand on regarde les statistiques qui viennent de ces différents pays, les 21 pays que je viens de mentionner au sud du Sahara, on est loin du compte.
Quels sont les obstacles justement à ce bon fonctionnement ?
La première obstacle, c'est que quand les femmes viennent en consultation prénatale, là où elles sont diagnostiquées, parfois elles ne reviennent pas accoucher dans la même structure. Mm-hmm. Ou elles accouchent dans la même structure et après quittent la structure pour aller ailleurs. Ce qui veut dire donc que quand elles ne reviennent pas, elles ne sont plus sous traitement. Et si elles ne sont plus sous traitement, le risque de transmettre le VIH chez leur enfant devient élevé.
Marcel Yotebieng, professeur de santé publique à l'Université d'État de l'Ohio, et il est chercheur pour le PEPFAR. Et alors que la pandémie a déjà fait plus de 30 millions de victimes, les participants à la rencontre de Durban ont fait le constat que les recherches d'un remède prendront encore du temps. En attendant, il faudra poursuivre les efforts de prévention. Timothée Donongmai a joint à Durban le docteur Eric Zogo, un médecin s'occupant de personnes vivant avec le VIH à Cape Town.
Nous sommes focalisés au niveau où il faut réunir les moyens parce qu'il semblerait que nous avons oublié les enfants et les adolescents. Les enfants de moins de 5 ans, ils ont l'attention du monde facilement et les femmes enceintes. Mais par contre, les enfants de 5 ans au-dessus et les adolescents, on n'a pas développé assez de stratégies pour pouvoir les assister. Donc il y a beaucoup de discussions pour le moment pour pouvoir faire face à ça. Mais il faut néanmoins ne pas oublier que très récemment, l'OMS a décidé ou a mis en place une stratégie où dès qu'une personne est diagnostiquée avec le VIH, la personne doit être immédiatement traitée.
Alors, à ce sujet, Dr Zogo, on a parlé de quelques inquiétudes du côté du financement des soins.
C'est vrai, c'est pour cela, juste avant l'ouverture officielle, il y avait des associations et des organismes réunissant les malades de VIH. Et avec un message strict disant s'il n'y a pas de nouvelles découvertes, il n'y aura pas moyen de stopper le sida. Et c'était un message lancé pour que le financier puisse mettre la main à la pâte pour qu'il y ait beaucoup de nouveautés dans les domaines.
Vous exercez en Afrique du Sud où vous vous occupez des personnes atteintes du VIH. Quelle est la situation dans ce pays?
Le pays est en train de conduire un de grands programmes sur la planète. C'est le plus grand programme de traitement sur la planète. L'Organisation mondiale de la santé a pris la nouvelle stratégie de pouvoir tester et soigner. Mais déjà, ici en Afrique du Sud, on parle d'appliquer cette nouvelle stratégie au plus tard au mois de septembre. Et il y a déjà des discussions au niveau des pays des BRICS. Les BRICS réunis, comme vous le savez, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Et ils voudraient voir au niveau du BRICS comment implémenter cette nouvelle stratégie.
Le docteur Zogo joint à Durban lors de la 21e conférence internationale sur le sida.
Un mauvais jour se lève au Africa, au Maliba. Pourquoi cette fois-ci c'est toi? On a des soldats courageux, vaillants qui tombent chaque jour au front. On manque leur cible parce qu'ils tirent avec décalage vite sur les islamistes. Ils se battent pour leurs femmes et leurs fils, pour vous et pour moi. Se battent pour la patrie au prix de leur vie. À part les terroristes, à Bagmi. On veut plus de crimes de confini, de bandits. Plus de djihadistes qui violent de filles dans ce pays. Mieux vaut la mort que la honte, elle est la devise de notre armée, marchant vers l'ennemi. Vive la démocratie, marchant vers l'ennemi, même si ça coûte la vie. Battons-nous Alain pour retrouver la liberté. Battons-nous Alain pour retrouver la liberté. Yeah.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la production, Georges Léonard Sagnot. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Rendez-vous mercredi prochain, 18h10 sur VOA Afrique. Nous nous quittons en musique avec Supernova et leur titre Peace in Mali. En espérant que ce soit entendu. Bonne soirée et bonne nuit à tous.
Combien de temps encore devrons-nous supporter cette situation qui nous blâme tant, qui nous blâme tant? On peut pas rester indifférent à ce que font ces tyrans. De quel droit se permet-il de violer des mamans? De quel droit se permet-il de violer des enfants? Non!
Elles ont 10 ans, 20 ans ou même 40 ans. Et c'est les femmes les plus courageuses au monde, yeah. C'est les femmes les plus courageuses au monde, yeah. De voir ses filles se faire violer parce qu'on est impuissant. De voir ses enfants achetés pour combattre la nation. Des soldats tombés au front, manque de munitions. Mesdames, messieurs, la situation est grave. Ce qu'on vous demande, c'est vraiment...